Arthur Bernays, La maison hantée, chapitre 1, une histoire de revenant. Docteur, encore un peu de café ? Non, merci, chère madame, bien qu'il soit délicieux, mais si j'en acceptais, je ne fermerais pas l'œil de la nuit et demain matin, je ne serais pas en forme pour soigner mes malades. Et vous, cher ami ?
Yes.
Yvette Lachesnay, une charmante jeune femme de 22 ans, remplit la tasse en faïence de Quimper que lui tendait James Wheelwright, solide gaillard d'une trentaine d'années, au type très pur d'anglo-saxon, et qui portait avec plus de désinvolture que d'élégance un costume sport marqué au coin d'un bon faiseur. Puis, se tournant vers son mari, un grand beau garçon, très français, lui, au regard clair, loyal, à la figure souriante et bien faite pour attirer immédiatement la confiance et la sympathie, elle fit « Et toi, mon Jean ?»«
Avec plaisir, chérie. »
Ils échangèrent un rapide coup d'œil d'allégresse dans lequel il y avait tout le bonheur, tout l'amour. « Quel couple adorable !» murmura le docteur Le Bossert à l'oreille de James Wheelwright, qui, assis près de lui sur un divan, envoyait vers le plafond de la haute et vaste pièce en forme d'atelier la fumée d'un très pur Havane. « Adorable !» répéta machinalement l'Américain, dont les yeux se portèrent vers une large baie qui donnait sur la mer, dont on entendait le grondement interrompu et très rapproché. La nuit était superbe. Un magnifique clair de lune nimbait d'une clarté au reflet d'argent l'immense nappe liquide au milieu de laquelle se détachaient, çà et là, quelques petits îlots de rochers que recouvraient presque constamment d'écume les vagues qui accouraient de l'horizon comme une interminable galopade de moutons affolés. Yvette, souple, gracieuse, et dont les lèvres naturellement carminées s'entrouraient en un délicieux sourire, s'approcha d'une table en bois sculpté qui avait dû jadis orner la sacristie de quelque vieille église bretonne, ainsi que les remarquables panneaux du coffre Renaissance accrochés au mur. Elle y déposa la cafetière et, se tournant vers ses invités, elle leur demanda « Fine, Calvados, vieux Marc, Armagnac, Chartreuse, Bénédictine.
Fine, lança l'Américain.
Oh, Calvados, répliqua le docteur.
Armagnac, désigna le maître de la maison. Madame Lachesnay remplit trois verres à dégustation avec les liqueurs demandées et elle les apporta sur un plateau à chacun de ces messieurs dont elle remplit les tasses qu'elle reporta sur la table. Tout cela avec une grâce, une simplicité qui la rendait plus captivante encore. « Vous regardez la mer ?» dit-elle à James Wheelwright. L'Américain fit un signe de tête affirmatif. Puis sans quitter des yeux l'admirable panorama qui s'étendait devant lui, il scanda « Je l'ai rarement vue aussi belle que ce soir. »
« Mais le fait est qu'elle est splendide !» déclarait Jean Lachesnay en s'approchant de la balle.
Et avec l'enthousiasme d'un pur artiste, il continua « Oh, ce n'est pas la nostalgique immobilité des calmes plats, miroirs lisses, des phares rayonnants et des lueurs d'étoiles. Ce n'est pas non plus la colère des flots qui courent à l'assaut du continent et s'en viennent émousser leur colère sur les proches rives millénaires qu'au cours des siècles ils parviennent à peine à entamer. Non, c'est plutôt comme un léger remous de fête, une chanson locale, une mélopée sans fadeur, ni sauvagerie, tendre sans mièvrerie, forte sans brutalité, magnifiquement humaine. Oh, docteur, quel beau pays que le vôtre! Combien vous avez raison d'en être fier et de l'aimer! « Mais vous aussi, vous l'aimez, notre presqu'île !» s'exclamait le Bossert avec cordialité. « Ben, c'est-à-dire, déclarait Lachesnay, que notre meilleur temps, à ma femme et à moi, est celui que nous vivons ici. N'est-ce pas, Yvette ?
Moi ? S'écriait Madame la Chesnay, mais je demanderai qu'à y passer toute l'année.
Vous n'auriez pas peur de vous ennuyer ? Insinuait le médecin.
Mon cher docteur, protestait Yvette, permettez-moi de vous répondre qu'une femme ne s'ennuie jamais quand elle a près d'elle un mari à choyer et un tout petit enfant à élever.
Bravo, approuvait le beau-serre. Vous au moins, vous n'êtes pas moderne pour un psou. Je vous en félicite et je félicite surtout notre cher ami la Chesnay d'avoir rencontré sur sa route une femme qui, non seulement un vrai compagnon de peintre, d'artiste, l'admire passionnément la nature, mais comprend aussi ce que doit être ce que vaut un foyer.
Oh, rougis, ma chère Yvette, appuyait la Chesnay. Mais je suis obligé de reconnaître que le docteur a 100 fois raison.
Et avec un entrain juvénile et un accent de franchise entraînante, il poursuivit. Figurez-vous, mes amis, qu'à 25 ans, au cours d'un dîner que mes camarades s'étaient cru obligés de m'offrir à mon retour de Rome, où en ma qualité de pensionnaire de la Villa Médicis, j'avais passé de belles années, je fis le serment solennel de ne jamais me marier. Oh, pourquoi ? Je n'en sais trop rien au juste. Est-ce parce que, contrairement à mon habitude, j'avais bu un peu trop de champagne, ou bien parce que j'étais imbu de ce procédé ridicule et qui coûte parfois si cher, plus tard, à ceux qui n'ont pas su s'en dégager, à savoir qu'un artiste ne doit jamais s'embarrasser d'une femme. J'en sais rien, et je jurais. Et un an après, j'épousais Yvette, une fille d'ex-bourgeois, bien pire, d'industriel. Ce fut dans mon petit clan un véritable scandale. On n'osa pas m'accuser d'avoir fait un mariage d'argent, puisque mes parents m'avaient laissé une fortune qui me donnait l'indépendance. Non, mais on murmura que je m'étais laissé chambrer, embobiner. Mais lorsque ceux qui me blâmaient ou me blaguaient connurent celle qui m'avait fait manquer si rapidement à ma parole, rerougis, mon Yvette, allez, rerougis. Ils comprirent tous, et non contents de m'excuser, ils m'approuvèrent avec un enthousiasme unanime. Avec une gentille émotion, Yvette interrompit. « Jean, je t'en prie, tais-toi. » Et toute rose, elle ajouta. « Je vais voir si Baby s'est bien endormi. » Légère comme une hirondelle, elle disparut dans une pièce voisine. Le beau-serre, un homme de 45 ans environ, aux allures de marin beaucoup plus que de docteur, et qui n'avait quitté son cher pays de Quiberon que le temps de faire de très bonnes études au lycée de Nantes, puis sa médecine à Paris, définissait « Mais une vraie Française, celle-là » Il ajouta ce compliment que son orgueil tout de terroir l'empêchait de prodiguer « Mais elle est digne d'être bretonne !» Quant à James Wilbright, après avoir avalé d'un trait son verre d'alcool et allumé un second cigare, il dirigea de nouveau son regard calme, froid, impénétrable, vers la baie qui, largement ouverte, laissait pénétrer dans le large hall les âpres effluves de la mer. Et la Chesnay reprenait. « Bon retour, mon cher docteur. Ma femme et moi, mais nous le sommes d'adoption et de cœur. Et savez-vous comment tous deux nous le sommes devenus ? Oh, c'est bien simple. Figurez-vous que la première année de notre mariage, nous avions voulu, en gens chics, que nous avions la prétention d'être passés 3 semaines à Deauville, au mois d'août, bien entendu. Bien, nous y sommes restés 3 jours. Et pourquoi ? Questionnait le beau-serre, dont le visage hâlé s'éclairait de 2 yeux bleus d'une luminosité superbe. La Chesnay ripostait. Bien parce que nous nous sommes vite aperçus de tout ce qu'avait de vide, d'artificiel, de malsain et même de ridicule. Cette existence qui consiste à étaler, à se montrer, à pratiquer assidûment tous ces exercices de plaisir forcés auxquels vous condamnent ce que l'on pourrait appeler les meneurs du jeu. Toutes ces manifestations exhibitoires d'un snobisme exacerbé nous écœurèrent. Et Yvette et moi, nous décidâmes d'entonner à l'unisson le chant du départ. Mais où aller ? Je me rappelais qu'un de mes bons amis, le peintre américain James Wilbright, ici présent, avait fait construire une très jolie villa dans la presqu'île de Quiberon, face à la mer sauvage, où il venait pendant de longues semaines et même parfois l'hiver. Je me souviens également qu'il m'avait vanté avec éloquence, car Wilbright est très éloquent chaque fois qu'il daigne parler, les beautés grandioses d'un site qu'il n'hésitait pas à qualifier d'incomparable. Je dis à ma femme, « Et si nous allions rendre visite à Wilbright ?»« Ah oui, entendu. » Le lendemain matin, nous partîmes en auto dès la première heure. Après avoir traversé la belle campagne normande, nous déjeunâmes à Rouen. L'après-midi, nous filions sur Vannes. Auray, déjà émerveillé par ce pays si pittoresque, si spécial, au décor si bien approprié, à ces troublantes légendes, dont chacune ressemble à un petit chapitre d'histoire locale ou traditionnelle. Et au fur et à mesure que nous avancions, nous nous sentions pris, attirés, fascinés, conquis par ce morbihan que tant de touristes dédaignent, soit par pose, soit par ignorance, et qui serait à la fois l'une des plus belles et des plus agréables parties de la France si l'administration préfectorale daignait faire pour ses routes le même effort qui a été réalisé dans la plupart des autres départements. Quand, après avoir traversé le curieux et charmant bourg de Plouarnel, nous nous élançâmes dans la presqu'île et que nous arrivâmes en vue du fort Bain-Thièvre, qui de sa masse imposante domine l'océan, un cri simultané d'admiration nous échappa. À notre droite, le large, la mer immense, grise, agitée, venait battre la grève dorée qui s'étend au pied de la route, et à gauche, la baie aux eaux calmes, azurée comme celle d'un lac italien. Nous nous arrêtâmes, tant c'était beau, inattendu, captivant, féerique. Puis nous nous remîmes en marche. Après avoir franchi un village, puis un lourd bourg, Kernostin et Saint-Pierre, nous suivîmes encore un peu la grande route de Quiberon. D'après l'indication d'un poteau, nous prîmes à droite le chemin qui conduit au village de Kerné. C'était près de là que Wilbright avait sa propriété. Nous l'atteignîmes enfin. Vous la connaissez, docteur, cette vieille maison du pays que notre ami a su aménager avec tout le confort moderne, sans rien lui enlever de son caractère. Nous y fûmes accueillis à bras ouverts. Le jour même, après nous avoir fait les honneurs de son agréable logis, James voulut nous faire aussi celui des alentours. Notre impression, à Yvette et à moi, fut parmi celles qui ne s'effaceront jamais. Je ne vous dirai pas, cher docteur, les beautés d'un pays que vous connaissez infiniment mieux que moi. Non, je vous dirai seulement que le spectacle admirable de cette côte aux roches gigantesques et formidablement taillée, de cette mer sans cesse changeante, de cet horizon au ciel tour à tour radieux d'azur et tourmenté de nuages, de ces couchers de soleil ébouriffants, feux d'artifice dont jamais l'un ne ressemble à l'autre, et par-dessus tout cette ambiance de sortilège à la fois très violente et très douce, qui se dégage de cette nature si puissante et restée d'elle-même, nous empoignèrent à un tel point que nous décidâmes d'imiter notre ami James et de nous installer là définitivement. pendant chaque belle saison. N'était-ce pas de quoi rêver pour un peintre? La mer d'abord, et quelle mer! Et puis les environs fourmillaient de motifs adorables. Le joli coudoyait le sublime. Et quels éclairages, quelles couleurs! Il me fallait donc un homme avec un atelier tel que Wilbright s'en était fait installer dans un grand hangar en pierre qui s'accotait alors contre sa maison. Mais c'était la maison qui manquait, ou bien les propriétaires, pour des raisons aussi péremptoires que respectables, refusaient de vendre les leurs, ou celles que j'aurais pu acquérir ne répondaient pas à la destination que j'avais résolu de donner à ma future habitation estivale, ou bien encore n'était pas située ou orientée ainsi que je le désirais. Nous résolûmes donc de faire construire, ce qui facilita notre choix à l'emplacement. Nous jetâmes notre dévolu sur un vieux fortin abandonné sur la côte, à quelques cent mètres de la fameuse grotte dite le Trou du Souffleur, et pour une somme relativement peu élevée, mais non sans de grandes difficultés, nous l'achetâmes à l'État. Un architecte de nos amis voulut, bien sûr, nos indications, dresser les plans de notre futur domaine. Nous nous adressâmes à un entrepreneur de la région. « Soit dit sans vous enfoncer, mon cher docteur, on ne construit pas très vite dans votre pays. La maçonnerie, ça va. La charpente, oh, il y a encore trop rien à dire. Mais quand vous arrivez à la menuiserie, à la serrurerie, à la plomberie, à la peinture, oh, je reconnais qu'il en est ainsi un peu partout. Cela devient d'une lenteur désespérante. On a coutume de dire que lorsque le bâtiment va, tout va. Eh bien, le bâtiment devrait bien aller un peu plus vite. Bref, nous n'avons pu prendre possession de notre maison que nous avons, conformément à l'usage breton, baptisé du nom de Ker Yvette, qu'au bout de 2 ans de patience, c'est-à-dire au début du mois de juin dernier. Inutile de vous dire que nous nous y plaisons tellement que nous n'avons pas bougé, songé à l'instant où l'automne nous contraindra à regagner Paris. Et si nous ne craignions pas pour Baby, songez qu'il n'a pas encore 6 mois, la rigueur des grands vents qui soufflent à l'époque des tempêtes, je crois que ma femme et moi nous serions restés ici tout l'hiver. Le fait est, déclarait le médecin, que vous eussiez profité, du haut d'un si merveilleux observatoire de représentation à grand orchestre, tel que seul s'étant donné une mère en furie. Et tandis qu'un sourire un peu sceptique errait sur ses lèvres, que surmontait d'une courte moustache d'un blond qui commençait à s'argenter, il ajouta « Mais peut-être eussiez-vous été troublé par les visites de quelques revenants qui, pendant les nuits de décembre et de janvier, évoluent dans ces parages. « Comment, docteur ? » s'écria la Chesnay. « Vous, un homme de science, vous croyez aux revenants ? » ?»« Mais après tout, répliqua le Bossert, est-ce que la science elle-même, surtout depuis un demi-siècle, n'a pas suscité des prodiges qu'en des temps plus reculés, on n'eût pas manqué d'attribuer à des causes exclusivement surnaturelles ?»« Oui, c'est très juste, admettait le jeune artiste. Mais jusqu'à ce jour, je ne vois pas que la science ait affirmé ni prouvé qu'il existait des fantômes. Cependant, objectait le docteur, il se trouve des gens de très bonne foi, dénués de toute fausse crédulité et de toute espèce de superstition, pour affirmer qu'ils en ont rencontré sur leur route. « Et vous, docteur ?» interrogeait la Chesnay. « En avez-vous vu ?»« Non, jamais. » « Et vous, James ?»« Des revenants, » précisait l'Américain, qui depuis un moment prêtait une oreille de plus en plus attentive aux propos qu'échangeaient la Chesnay et le docteur. Et lentement, il articula, « Je n'en ai jamais vu, mais j'en ai entendu. »«
Oh, racontez-moi cela !» s'écria Yvette, qui venait de reparaître dans l'atelier.
« Mais quoi bon ?» éludait James, dont le visage s'était assombri. La jeune femme insistait.
« J'adore les histoires de revenants, et je les adore d'autant mieux que je n'y crois pas. » Mais le soir, par un beau clair de lune comme celui-ci, pendant que l'on se sent bercé par la chanson des flots et que l'on est bien en sécurité dans une maison toute neuve, et qui par conséquent ne contient aucune cachette, aucun recoin secret, est-ce peut-être ainsi que les vieilles demeures un lieu de rendez-vous pour les femmes qui éprouvent le besoin de se réincarner?
Wilbright, de plus en plus fermé, répliquait en un français teinté d'un accent yankee assez prononcé.
« Je préférerais ne point parler de ces choses. »«
Pourquoi ?»«
Parce que je craindrais de vous effrayer. »«
Moi ?» protestait Yvette, « mais demandez à mon mari si je suis poltronne. »
« Non, pas assez !» souriait le peintre.
La jeune femme reprenait avec vivacité.
« Mais je vous assure, Wilbright, que si je me trouvais tout à coup en face d'un fantôme, je n'aurais pas peur, mais pas peur du tout. Et je crois même que j'en profiterais pour obtenir de lui quelques renseignements sur ce mystérieux au-delà, sur lequel nous ne possédons que des notions si vagues et si imprévues.
« En ce cas, cher ami, décidait l'Américain, dont le visage avait repris son expression habituelle,
je n'hésite pas à vous donner satisfaction, sous réserve naturellement de l'autorisation de votre mari.
Autorisation que je vous accorde, très volontiers, souscrivait la Chesnay.
Eh bien voici, attaquait James Wheelwright, et sans hâte ni fièvre, paisiblement, comme s'il narrait à ses auditeurs l'histoire la plus simple du monde, il révéla.
L'hiver dernier, j'étais venu réveiller à Tcherné avec quelques amis. Nous étions réunis dans mon atelier. Nous achevions de souper et nous étions tous très gais. Mais pas un de nous n'avait bu outre mesure. Cela vous étonne de la part d'Américains qui n'ont pas adhéré au régime sec, et c'est pourtant la vérité. Deux charmantes femmes qui nous accompagnaient, vous les connaissez, Lachenay, Mrs. Barton et sa cousine, Miss Silence, nous demandèrent alors de les faire danser. Je plaçai sur mon phonographe un disque de One Step et j'allais déclencher de nouveau lorsque tout à coup un violent coup de sonnette résonna à la porte d'entrée. Ayant envoyé les domestiques dans leur chambre, je m'en fus ouvrir tout en pestant contre l'importun ou le malotru qui se permettait de venir nous déranger à pareille heure. J'ouvris donc, il n'y avait personne au dehors. Persuadé que je venais d'être victime d'une mystification de la part d'un mauvais plaisant, je refermai la porte et, après avoir donné un tour de clé à la serrure, je rejoignis mes invités. Nous nous mîmes à danser. 5 minutes après, nouveau coup de sonnette encore plus prolongé que le précédent. Je me précipitai avec un de mes amis. Dans l'antichambre, j'empoignai une canne, bien décidé à m'administrer une correction sévère à l'auteur de cette farce stupide. J'ouvris la porte. Toujours rien. Nous élançons dans le jardin et nous constatons que le portail d'entrée est toujours fermé au verrou et qu'il est impossible que ce mystérieux sonneur et tu le temps de franchir le mur de clôture haut de 4 mètres, et dont le faîte est hérissé de tessons de bouteilles qui rendent une escapade extrêmement périlleuse. Sans doute est-il caché dans les tamaris qui bordent le mur. Pendant que mon camarade s'en va chercher une lanterne, je reste en faction, l'œil et l'oreille aux aguets. Mon ami revient avec mes autres invités. Les deux dames, que cette aventure semble beaucoup amuser, se sont jointes à eux. Tous, les uns armés de falots, les autres de lampes électriques, fouillent les bosquets. Rien, absolument rien. Nous prenons le parti de réintégrer mon atelier, d'autant plus qu'il souffle un vent très froid. Pour se réchauffer, les uns boivent du whisky, les autres se mettent à danser au son du phonographe. Lorsqu'un quart d'heure après, de grands coups retentissent contre les volets. Nous nous arrêtons tous. Les coups s'arrêtent aussi. Mais pour reprendre de plus belle au bout d'un instant. On eût dit qu'une sorte de catapulte lançait le gros galet contre les panneaux de foire. J'escalade 4 à 4 l'escalier qui conduit directement de mon studio à ma chambre. La fenêtre est ouverte. Je prends dans ma poche mon Browning que je ne quitte jamais. Les coups continuent et branlent la maison. Je me penche à l'extérieur. Je n'entends plus rien et je ne vois rien. J'attends quelques secondes. Le phénomène se reproduit à l'est de la maison. Je cours dans une pièce voisine qui donne de ce côté. À peine y ai-je pénétré quand des carreaux volent en éclats. Et pourtant, j'en suis sûr, aucun projectile ne l'a atteint. À peine suis-je revenu de ma surprise, que j'entends plusieurs voix lancer à la fois « James Wilbright ! James Wilbright !» J'ai l'impression très nette que ces voix proviennent de l'atelier. Vite, je redescends auprès de mes invités. Je leur demande pourquoi ils m'appellent ainsi. Et tous me déclarent que, pendant mon absence, ils n'ont pas ouvert la bouche. Je vois leurs visages qui ne me mentent pas. Ceux des hommes sont empreints de gravité, celui des femmes de frayeur. Et voilà que tout à coup s'élèvent des gémissements qui semblent jaillir des murailles du sol et se transformer bientôt en sanglots déchirants, en cris éperdus, dominant le tumulte de la mer, subitement déchaînée. Mrs. Barton s'évanouit. Mrs. Silkins se laisse choir dans un fauteuil et se cache la tête entre les mains. Un grand coup de tonnerre et puis plus rien, le silence. Et l'Américain de conclure, « Ne croyez pas que j'ai eu l'intention de vous faire passer le petit frisson en vous racontant un conte à Edgar Poe que j'aurais inventé de toutes pièces. Non, ce que je viens de vous narrer est exact, l'absolue vérité. » Dès le lendemain, j'ai rédigé un procès-verbal de ces singuliers événements. Il porte les signatures de tous ceux qui ont été les témoins. Voilà pourquoi, à partir de ce jour, j'ai cessé de nier le surnaturel. Très intrigué, mais nullement effrayé par cette histoire que James Wilbright avait racontée avec un accent de conviction indéniable, Yvette Lachesnais demandait « Ces phénomènes se sont-ils reproduits ?»« Pas à ma connaissance, » déclarait l'Américain. Ben, « il se peut, émettait le peintre, que vous ayez tous été victimes d'une sorte d'autosuggestion. »« Je ne le pense pas, » déniait Wilbright. Les débris de verre répandus sur le parquet de la chambre et les traces très nettes des coups que je recevais le matin sur les volets démontraient clairement que nous n'avions pas été l'objet d'une hallucination collective. « Mais alors, comment expliquez-vous ce mystère ?» interrogeait Yvette. « Je ne l'explique pas, » avouait James. Les bonnes gens du pays m'ont raconté que, non loin d'ici, gisait, profondément enterré dans le sol, un nombre assez considérable de chouans qui, sous la Révolution, lors de l'expédition de Hoche dans la presqu'île de Quiberon, s'étaient réfugiés dans le fort, sur l'emplacement auquel a été construite cette maison, et avaient été habituellement fusillés par les soldats républicains. Les vieux, les très vieux, ceux qui transmettent les légendes aux générations suivantes, prétendent que ce sont ces malheureux qui viennent réclamer des prières du moment des grandes fêtes religieuses, celles de la Toussaint, de Pâques, de la Pentecôte, du 15 août. « Le 15 août ?» répétait Yvette. À la fête de la Vierge, précisait le bosseur.
Mais c'est aujourd'hui le 15 août, constatait la jeune femme.
Et tout en riant, elle ajouta, « Voyez-vous que nous soyons alertés, nous aussi, par des fantômes ?»«
Oh, je ne vous le souhaite pas, » déclarait James avec gravité, « car je ne me rappelle pas avoir vécu une nuit plus abominable que celle dont je viens de vous retracer les péripéties. »
Il alluma un troisième cigare.
Monsieur le bosseur, qui avait écouté en silence le récit de Wheelwright, sans laisser apparaître sur son visage le moindre trace d'approbation ou de désaveu, se leva en disant
« C'est le cas où jamais de rééditer ce vieil aphorisme, comme le temps passe vite en aimable compagnie, et d'y joindre celui-ci. Il n'est pas de meilleure société qui ne se quitte.
« Docteur, faisait observer Yvette, il n'est que 22 heures.
« Oui, d'accord, chère madame, mais d'ici Quiberon, il y a un bon bout de chemin. Je suis venu à pied, il faut que je m'en retourne de même.
Ah, « voulez-vous que je vous reconduise en auto ?» proposait Jean.
« Oh non, pas du tout, déclinait le médecin. « Cela me fera beaucoup de bien de rentrer, pédibus comme jambis. La marche est le meilleur des sports, surtout lorsqu'on a, comme moi, une certaine tendance à l'embonpoint. »
« Docteur, je vous accompagne, » décida l'Américain. « J'aime beaucoup me promener la nuit, surtout quand il fait un temps aussi beau que ce soir. Si vous le voulez bien, nous longeons la côte. C'est si magnifique par un clair de lune. »«
Entendu, » acquiesçait M. le bosseur. Tout en prenant congé de ses hôtes, il recommanda. « Surtout, n'allez pas rêver que des vieux chouans vous tirent par les pieds. »
« Docteur, affirmait gaiement Yvette, je suis tout à fait tranquille. Ils ne viendront pas. Et s'ils viennent, je les recevrai de mon mieux. Je leur demanderai même de me raconter des histoires. » Ce fut un échange de cordiales poignées de main. Les Lachesnais reconduisirent leurs amis jusque dans le jardin, clôturé par un mur bas, surmonté de piquets en ciment, armés, reliés entre eux par des fils de fer assez rapprochés, à l'abri duquel toute une rangée de tamaris nains s'efforçait déjà de grandir. Ils regardèrent le docteur et l'Américain franchir la barrière, et dans la clarté de la lune, ils les virent gagner le sentier qui suivait la falaise et s'éloigner d'un même pas allègre et bien rythmé. Un instant, ils s'attardèrent au dehors, goûtant le charme nocturne de ce sublime ensemble de ciel, d'eau et de rochers que leur offrait la nature. Jean s'écria
« Ben, il n'est pas tard, nous aurions pu leur faire un bout de conduite. »«
Oui, c'est vrai, » appuya Yvette.
« Veux-tu que nous allions jusqu'au trou du souffleur ?»«
Oui, je veux bien, chérie. Une seconde, le temps de donner un tour de clé à la porte. »
Ici, c'est vraiment pas la peine, observait le peintre. Nous ne sommes pas dans la banlieue de Paris. Nous n'avons pas à craindre les cambrioleurs.
C'est juste, reconnaissait la jeune femme, et dans un joli éclat de rire, elle scanda. Ici, il n'y a que des revenants. Chapitre 2, où nous voyons se produire dans la demeure la plus calme qui soit au monde, des phénomènes aussi mystérieux qu'inquiétants. Jean et Yvette s'enfuirent bras dessus bras dessous, en amoureux, et gagnèrent la falaise toute voisine. À 200 mètres à peine, on entendait un souffle puissant, celui de la mer qui s'engouffrait dans un vaste couloir pratiqué au milieu d'un titanesque amoncellement de roches et qui bientôt disparaissait sous terre. C'était le fameux trou du souffleur. À mesure que Jean et Yvette s'en approchaient, il leur semblait que ce murmure désespéré, ce ronronnement gigantesque des flots, pénétrant dans une insondable caverne, perdait peu à peu de sa lugubre monotonie. Par intervalles, de véritables ululements, pareils à ceux du vent du large, surgissaient de l'abîme dominant la basse sonore en pédale que formait le ronronnement continu de l'eau
envahissant comme un interminable couloir. Lorsqu'ils furent tout près du gouffre, Yvette fit en s'appuyant plus fort au bras de son mari.
On dirait des sanglots, pareil à ceux dont Will Wright nous parlait tout à l'heure.
Oui, les sanglots longs des violons, chantonna la Chenenet, qui avait une jolie voix de baryton.
Écoute, Jean, invitait la jeune femme, tu n'entends pas comme des pleurs, des cris? Mais c'est vraiment très impressionnant.
Parbleu, les voilà les revenants. Du côté de la villa de notre ami, il doit y avoir une fissure souterraine dans le genre de celle-ci. Et voilà ce que ses amis et lui ont entendu. Quant au reste, il a beau dire qu'il n'avait pas bu outre mesure.
Tel on connaît ses saints, tel on les honore. Je suis persuadé, au contraire, qu'ils avaient dû tous absorber une quantité de cocktails et de champagne assez abondante pour leur faire perdre à tous un peu la boule. N'est-ce pas ton avis, mon Jean chéri?
Mais si, ma belle, mais si. Allez, maintenant, veux-tu que nous rentrions?
Oh, mais laisse-moi écouter encore. C'est si empoignant. On a beau avoir du grand, ça vous donne tout de même un peu la chair de poule.
Yvette écouta encore un moment l'étrange mélopée, véritable chant désespéré, d'autant plus troublant qu'il semblait proféré par des voix humaines. Puis brusquement, elle décida.
« Bon, eh bien, maintenant, allons faire dodo. »
Ils regagnèrent Ker Yvette, dont la silhouette toute blanche, sous la caresse de la lune, se profilait, tel un décor cinématographique, sous la clarté d'un immense sunlight, qu'on eût dit braqué dans le ciel.
« Tiens, remarquait la Chenet, il n'y a plus de lumière. »
Pourtant, le luxe de l'atelier et la lanterne du vestibule étaient restés allumés.
« Oui, en effet, déclarait Yvette. »
Et tout en plaisantant, elle ajouta, « C'est peut-être un fantôme qui nous aura coupé l'électricité. »«
Non, dit plutôt Nounou. Elle était couchée lorsque je suis allé embrasser notre petit bonhomme. »
« Alors, Françoise, la femme de chambre. »
« Oui, ou le chauffeur, ou la cuisinière.
Oh, »« Cela d'ailleurs n'a aucune importance. »« Aucune. » Ils rejoignirent leur maison. En y pénétrant, la Chesnay fit fonctionner un commutateur, mais la lanterne du vestibule ne s'alluma pas.
« Oh, c'est une panne, dit-il. »«
Heureusement que nous avons des bougies, » s'écria Yvette.
« Mais c'est bien ennuyé tout de même. »
« Il n'y a pas trop à se plaindre, » déclarait Jean. « Depuis 2 mois et demi que nous sommes ici, c'est la seconde fois seulement que nous sommes privés de lumière. » Il enflamma un briquet de poche, poussa le verrou de la porte d'entrée et rejoignit sa femme au moment où elle s'engageait dans l'escalier en pitch-pain verni qui conduisait au premier étage. Pour la parfaite compréhension des événements qui vont suivre, on nous permettra de faire une description aussi brève que possible de la villa Ker Yvette. Bâtie sur les fondations d'un ancien fortin qui datait du XVIIe siècle et dont les nouveaux propriétaires avaient fait disparaître le remblai, les travaux avancés et le vieux mur d'enceinte aux 3/4 écroulés qui leur eussent caché l'horizon, Ker Yvette se composait d'un sous-sol pour lequel on avait utilisé les vieilles casemates transformées en cuisine, en buanderie, soute à charbon, etc., et où l'on avait découvert un puits d'eau douce qui, paraît-il, ne tarissait jamais. Au-dessus, un vaste rez-de-chaussée de 20 mètres de façade sur 15 de profondeur et qui renfermait l'atelier et une salle à manger, communiquant directement avec un salon intime. Ces 3 pièces, qui donnaient toutes sur le vestibule, avaient été décorées avec un goût délicieux dans le style local, et chaque meuble, chaque objet s'y harmonisait à merveille. Au premier étage, la chambre du jeune ménage, séparée par un vaste cabinet de toilette de la nurserie, où se trouvait le berceau du petit Jackie. Puis 2 autres chambres d'amis. Au deuxième, le logement des domestiques. À 20 mètres de la maison, un garage, fort bien compris, est muni d'une chambre où couchait le chauffeur. Tout cela formait un ensemble agréable à l'œil, confortable, attrayant, où la vie devait être et était charmante, puisqu'elle était celle de deux cœurs qui n'avaient qu'un désir, celui de s'aimer et qu'un souci, rendre heureux leur entourage. C'était vraiment la maison du bonheur. Yvette et Jean avaient donc regagné leur chambre. La lune, si belle jusqu'alors, commençait à se voiler. Quelques gros nuages noirs subitement apparus léchaient l'horizon. On eût dit d'immenses panaches de fumée échappés aux cheminées d'un transatlantique invisible. « Mais comme le temps change vite ici, » constatait Yvette. « Oh, c'est ce qui fait la désagrément de ce pays, » appréciait le peintre. « Oh, on dirait qu'un grain se prépare. Pourvu que ce bon docteur et ce cher Wilbright ne reçoivent pas une averse sur le dos. »« Bon, » plaisantait Jean, « ils en ont l'habitude. » Yvette reprenait. « N'as-tu pas trouvé que ce soir notre ami James était tout particulièrement morose ?»« James, » observait la chèvre, « n'est jamais très gai. » »« Oui, mais j'ai toujours supposé qu'il devait y avoir un grand chagrin dans son existence. »« Pourquoi ?»« Un jeune, riche, élégant, non démuni de talent, absolument créé pour la vie moderne, il est étrange qu'il ne se soit pas marié. » Et qu'au lieu de vivre à Paris dans le brillant et mouvementé qui paraissait si bien lui convenir, il ait préféré s'isoler 8 ou 10 mois sur 12 ici et y demeurer seul pendant la plus grande partie de l'hiver. Son art. Dans son atelier, j'ai retrouvé les mêmes toiles inachevées que j'y avais vues la saison dernière. Et Madame Lachesnais conclut « À mon avis, Wilbright a une peine, une grande peine d'amour. »«
Après tout, c'est possible, » admettait l'artiste. « Mais comme il n'a pas jugé utile de me faire ses confidences, je me garderai bien de les provoquer. »«
Oui, tu auras raison. »
Brusquement, Lachesnais interrogeait « Ne trouves-tu pas ma petite Vauvon qui fait très chaud ?»
« Oui, en effet, le temps s'est très alourdi.
Cela ne te gênerait pas que j'ouvre un peu, au contraire. »
La jeune femme se dirigeait vers la fenêtre lorsque tout à coup elle s'arrêta. « Tu as entendu ? » fit-elle un peu émue.
« Non, quoi donc ? »
« On dirait que l'on a sonné. »
« Où cela ? »
« Dans le vestibule. »
« Mais non. »
« Oh, je t'assure que si. »
« Monsieur Wilbright, avec ses histoires de revenants. »«
Pas du tout. Écoute encore. »
La Chesnay prêta l'oreille. Il tressaillit légèrement. Il venait de percevoir à son tour le bruit de la sonnette que, du dehors, l'on faisait fonctionner avec la main et avertissait qu'un visiteur était là. « Oh, c'est trop fort !» s'écria-t-il. S'emparant d'une bougie allumée et plantée dans un chandelier, Jean s'élançait au dehors.
« Prends ton revolver !» lui cria Yvette.
Mais déjà son mari dégringolait l'escalier. Naturellement brave, elle le suivit sans la moindre hésitation. Comme ils atteignaient le vestibule, la sonnette retentit par 3 fois comme si elle eût été agitée, secouée par une poigne vigoureuse. La Chesnay se précipita vers la porte, repoussa le verrou, ouvrit le battant et se pencha au dehors. Il n'y avait personne. Un coup de vent souffla la bougie qu'il tenait à la main, et comme il se retournait, un pot de cuivre placé dans le vestibule sur une table tomba sur les dalles aux pieds d'Yvette, comme s'il eût été projeté par une main invisible. Cette fois, la jeune femme, malgré tout son courage, laissa échapper un cri d'angoisse. Impossible en effet de croire à une mystification. Si un mauvais plaisant s'était avisé de tirer sur le cordon de la sonnette, il n'aurait pas eu le temps de disparaître avant que la Chesnay eût ouvert la porte.
En outre, dans l'enclos qui contournait la maison, aucun arbre, aucun massif, aucun accident de terrain ne lui permit de se cacher. Et ce pot de cuivre qui dégringolait d'une façon si bizarre, par qui avait-il été lancé à terre? Par un chat endormi et réveillé en sursaut. Mais il n'y en avait pas dans la maison. Et si s'en était faufilé un, Jean et Yvette eussent certainement entendu le bruit de sa retraite. La Chesnaye, qui avait regagné le vestibule et refermé la porte, enflamma un briquet de poche et ralluma la bougie. Remarquant que sa femme était un peu pâle, il lui dit « Tu n'as pas peur ?»«
Mon Dieu, non !» articula la jeune femme d'une voix un peu hésitante.
Regardant le pot de cuivre qui gisait à terre, il fit « C'est toi qui as renversé cela ?»«
Non, non, ce n'est pas moi. »«
Pourtant,
oh, mais j'étais au moins à 2 mètres de lui et je suis sûr de ne pas l'avoir touché. »«
C'est étrange, » dit Lachenay, en ramassant le pot de cuivre et en le remettant à sa place. Au moment où il le replaçait sur la table, un coup formidable retentit au premier étage. On eût dit qu'on venait de heurter une porte avec une violence inouïe. Instinctivement, Yvette se rapprocha de son mari. Elle était devenue toute blanche. Bien que Jean fût doué d'un sang-froid remarquable et d'un cran à toute épreuve, il avait fait son service militaire dans l'aviation. Il se sentit au cœur un léger pincement, annonciateur d'une prochaine angoisse. Mais, se défendant contre le trouble qui commençait à l'envahir, il fit « Est-ce que nous rêvons, ou bien sommes-nous éveillés ?» Un second coup, aussi fort que le précédent, se faisait entendre non plus cette fois au premier étage, mais au second. Il avait dû être frappé contre la porte de l'une des chambres où couchait la femme de chambre et la cuisinière. Mais ce sont bien les phénomènes que nous décrivait tout à l'heure James Wheelwright, murmura l'artiste. Dominant l'effroi qui s'était emparé d'elle, Yvette s'écriait « Je vais voir si Baby n'est pas réveillée. Cette pauvre nounou doit avoir une frayeur atroce. » Elle se dirigea vers l'escalier. La Chesnaye la suivit. Des cris d'enfants maintenant leur parvenaient. Et comme ils atteignaient le palier, ils entendirent la voix de la nurse qui lançait terrorisé à travers l'entrebâillement de la porte « Au secours, monsieur, madame, au secours !» Et de là-haut, la cuisinière et la femme de chambre clamaient « Au voleur, à l'assassin !» « Du calme !» conseillait la Chesnaye avec autorité. « S'il y a un malfaiteur dans la maison, je vais lui régler son compte. »«
Oh, monsieur, madame, si vous saviez !»
geignait la nurse. Yvette, la bousculant à moitié, courut vers son petit, qui, réveillé dans son berceau, les poings serrés, criait à moitié pâmé. La jeune femme le saisit et, le serrant contre sa poitrine, le berça doucement, lui murmurant des paroles maternellement câlines. La nurse, en proie à une frayeur intense, s'était effondrée sur une chaise. «
Recouchez-vous, Anne !» conseillait Madame la Chesnaye. « Oh, si madame savait !»
se lamentait la nurse, toute tremblante. D'un pas chancelant, elle regagna son lit, sur lequel elle se laissa tomber comme une masse. L'enfant s'était tu, puis rendormi. Yvette le reposa dans son berceau, et revenant à la nurse, elle lui dit
« Brio, remettez-vous, Anne. Nous sommes là, monsieur et moi. »
Et redevenue très maîtresse d'elle-même, elle fit «
Vous voyez, moi, je n'ai pas peur. Mais c'est que madame n'a pas entendu.
Quoi donc ?»«
Un coup frappé contre la porte. On aurait dit que la maison allait s'écrouler. Je ne dormais pas encore. Vite, je suis sauté en bas de mon lit. J'ai voulu ouvrir, mais la porte me résistait, comme si quelqu'un de très fort l'avait retenue. Elle a enfin fini par céder. » « Alors j'ai vu !»
Anne se cacha la tête entre les mains comme si le rappel de la vision qu'elle venait d'avoir quelques instants auparavant la plongeait dans une indicible épouvante. « Mais qu'avez-vous vu, Anne ?» insistait Yvette.
« Oh, madame, madame !»«
Un revenant ?»«
Oui, peut-être, je ne sais pas. »«
Mais précisez, ma fille. »«
Ben, j'ai vu, madame, comme une boule de feu qui descendait l'escalier du deuxième et qui sautait de marche en marche. J'ai cru que c'était le tonnerre qui allait éclater. » Mais la foule boule a disparu tout à coup, sans bruit, comme une bulle de savon qui crève dans l'air.
« Madame, madame, mais qu'est-ce que cela veut dire, tout cela? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela veut dire ?»
Yvette allait s'efforcer de rassurer la malheureuse nounou lorsqu'un nouveau coup de sonnette retentit dans le vestibule. Elle courut sur le palier et se croisa avec son mari, qui sortait de sa chambre où il avait été prendre son revolver. Là-haut, Françoise et Marie continuaient à appeler au secours. Dans le vestibule, la sonnette s'agitait désespérément. L'enfant, réveillé de nouveau, faisait entendre des cris perçants. La villa qu'arrivait, d'ordinaire si paisible, était le théâtre d'un indicible affolement. La Chesnay résolument ouvrit la porte d'entrée. Cette fois, il y avait quelqu'un. Un homme, le chauffeur Pierre Rébillard, un grand gaillard de 28 ans, à la carrure d'athlète. En bras de chemise, vêtu d'un pantalon qu'il avait dû enfiler la hâte, pieds nus, le visage convulsé, il bégayait.
« Monsieur, monsieur, je crois qu'il y a des revenants dans le garage. »«
Allons, entrez !» ordonnait le peintre. À peine avait-il prononcé ces mots que le lustre de l'atelier et la lanterne en fer forgé suspendue dans le vestibule se rallumaient comme par enchantement. Rébillard bégayait.
« Monsieur téléphonait à la gendarmerie. »«
Mon garçon, observait la Chesnay, vous avez complètement perdu la tête. »« Oui, vous savez bien qu'ici, le téléphone ne fonctionne pas la nuit. »
« Ah, oui, c'est vrai, je n'y pensais plus. Que monsieur m'excuse. »«
Alors, remettez-vous, dites-moi ce qui s'est passé. » Rébillard expliquait.
« Je dormais profondément lorsque je fus réveillé par un grand coup qui fit trembler la porte du garage. Je sautai à bas de mon lit et courus à la fenêtre. Il n'y avait personne. Je crus que j'avais rêvé et j'allais me recoucher lorsqu'un coup encore plus fort me fit sauter. »
« Oh, cette fois, me dis-je, sûr que la porte doit être enfoncée. Je voulus me rendre compte de ce qui s'était passé. Eh bien, je ne suis pas très rassuré. Je descendis dans la cour, persuadé que c'était des voleurs qui cherchaient à barboter l'auto. Mais votre fer fiche, il n'y avait personne en bas. Je pensais qu'en entendant venir mes voleurs, c'était des bidets et qui se cachaient derrière le garage. » Et je m'apprêtais à le contourner lorsque je vis. Oh, monsieur, les cheveux m'en dressent encore sur la tête. Une boule de feu grosse comme une citrouille qui se dirigeait vers moi en bondissant sur le sol. Je me jetais à plat ventre, la figure contre le sable. Je m'attendais à être frappé comme par la foudre, mais n'entendant aucune détonation, je relevai la tête. Je ne vis plus rien. Alors je me relevai et courus vite pour venir monsieur. Et Pierre Rébillard, fils de campagnard vendéen, qui croyait un peu au bon Dieu, mais pas du tout au diable, conclut. La mère Leport du village de Kernet m'avait bien raconté qu'il y avait des revenants sur la côte, mais je l'avais pas cru. Oh, je dis pas qu'il y en a, car je suis tout de même pas un idiot, la preuve que j'ai été artilleur. Mais tout de même, il y a quelque chose de pas naturel là-dessous. Et si c'est une blague qu'on nous a faite, eh ben moi je la trouve mauvaise. En effet, appuya le jeune peintre sans trop de conviction, oui, ce n'est peut-être qu'une plaisanterie, mais elle coûtera cher de ses auteurs. Pour l'instant, c'est tout ce que je puis vous dire. Allez, mon garçon, allez vous coucher. Vous avez votre revolver.
Oui, monsieur.
Eh bien, s'il tape, je recommence, et si vous apercevez quelqu'un, tirez en l'air, d'abord et après en plein corps, si vous le pouvez.
Bien, monsieur. Mais je crois que pour cette nuit, nous en avons fini avec ces manifestations ridicules.
La Chesnaye se trompait. À peine avait-il prononcé ces mots que des plaintes, des gémissements, des sanglots, des cris de douleur s'élevaient très rapprochés. On eût dit qu'ils provenaient de la cuisine. Son Browning au poing, le jeune artiste s'élança dans l'escalier qui descendait au sous-sol. Rébillard lui emboîta le pas. La Chesnaye manœuvra un commutateur qui fit s'allumer les lampes de la cuisine et de la buanderie. Instantanément, les bruits s'éteignirent. Pas plus que devant la porte de la maison et près de celle du garage, il n'y avait personne, ni vivant, ni fantôme. Mais soudain, le chauffeur s'écriait, en désignant du doigt le couloir obscur qui aboutissait à la soute à charbon, « La boule de feu, la boule !» Alors la Chesnaye aperçut à son tour une sorte de ballon incandescent qui roulait lentement sur le sol et s'évapora subitement en une vaste lueur éblouissante.
« Monsieur, monsieur !» dit Robillard, dont la voix s'étranglait dans la gorge. « Voulez-vous que je vous le dise? Votre villa, eh bien, c'est une maison hantée !»